Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Les massacres de Sabra et Shatila il y a 40 ans à Beyrouth, cela a duré 3 jours du 16 au 18 septembre 1982. 40 ans plus tard, toujours aucune condamnation pour ce massacre de réfugiés palestiniens. Notre invitée sera la journaliste et enseignante Maya Kadra. Les Nations Unies appellent les autorités talibanes à prendre des mesures urgentes pour rouvrir les écoles secondaires aux filles en Afghanistan. Cette découverte dans la bande de Gaza, des mosaïques datant du 5 au 7e siècle ont été dévoilées dans un verger du centre de l'enclave palestinienne. Les funérailles demain de la reine Elisabeth II, un événement d'une ampleur inédite en Grande-Bretagne. L'invité de Pluriel ce week-end était Samia Badat Karam, conseillère de Paris, membre du groupe Changer Paris, présidé par Rachida Dati, élue à la mairie du 16e arrondissement. Elle a notamment réagi aux décisions prises par Anne Hidalgo en matière de sobriété énergétique, extrait de votre édition. Regarde votre journal sur le roman de Pierre Henry, Les cendres de la mer, aux éditions 1 point c'est tout. Le président de France Fraternité raconte l'histoire d'une femme qui, dans les années 50, accouche d'un enfant sans être mariée, puis abandonne cet enfant. Pierre Henry est l'invité de Pluriel. À 19h, vous l'entendrez. Il y a 40 ans était commis le massacre de Sabra et Shatila, des camps palestiniens situés dans la banlieue sud de Beyrouth. Femmes, enfants, vieillards assassinés méthodiquement par des miliciens dirigés par Elie Obeika, quelques jours après l'assassinat du président Becher Gemayel. Un massacre organisé avec l'aide d'Ariel Sharon, ainsi que l'a montré une commission d'enquête israélienne. Gros plan sur cette page sombre de l'histoire avec Maya Kadra, journaliste et enseignante.
Le massacre de Sabra et Shatila, ça marque une page très sanglante de la guerre libanaise. Et c'est un crime abominable qui a été commis contre des Palestiniens dans leur camp de réfugiés. Ce camp qui est situé dans la banlieue sud de Beyrouth. Donc actuellement, cette banlieue sud, on peut la considérer comme le fief du Hezbollah, mais le camp, il existe toujours là-bas. Et en ce qui concerne ce crime-là, donc en effet, ça a eu lieu en 82, après l'assassinat du président Becher Gemayel, dont le mandat très court s'est limité à 21 jours seulement. Donc on peut considérer que c'était des représailles. Mais c'était des représailles mafieuses. Pourquoi ? Parce que ça a été organisé par un chef de guerre, connu pour sa criminalité et connu aussi pour son côté très sanglant, c'est Elie Obeika, qui a été plus tard assassiné à la voiture piégée dans les années 2000. Elie Obeika, qui était à la tête des forces libanaises en 82, et c'était pas une figure qui rassemblait vraiment tous les combattants de la milice des forces libanaises pendant la guerre, ou bien de la résistance chrétienne, ce qu'on a appelé la résistance chrétienne. Elie Obeika était une figure controversée. Une figure aussi qui peut être considérée comme une figure de trahison, entre guillemets, parce que premièrement, donc le premier épisode sanglant qui a un peu consacré Elie Obeika comme un des plus grands criminels de la guerre libanaise, c'était Sabra et Shatila, mais plus tard aussi une autre trahison, c'était le fait qu'il soit un peu le parrain ou bien une grande figure de ce qu'on a appelé l'accord tripartite. Cet accord tripartite, en fait, en 86, je le rappelle, a été signé à Damas. C'était Elie Obeika, Nabih Berri, c'est un chef de ministre actuellement, le chef du Parlement, indétrônable, et Walid Jumblat, qui est à la tête du PST, donc qui était aussi un chef de guerre, un chef de milice. Et donc ces trois chefs de milice, ou trois dirigeants, ou trois zaïms, comme on les appelle au Liban, ont signé un accord en 86 avec Damas, avec le régime syrien, qui est tout aussi tortionnaire et sanglant, en donnant à ce régime syrien donc le droit d'occuper le Liban. Donc, évidemment, cet accord tripartite, il y a eu toute une révolution pour pas qu'il ait lieu. Bon, il a été signé, mais il n'a pas été pour autant appliqué, parce qu'à ce moment-là, les forces libanaises, qui étaient déjà très divisées, ont fait leur révolution armée et ils ont évincé Elie Obeika.
Des miliciens libanais ont massacré des civils palestiniens en septembre 1982, mais aussi avec la complicité d'Israël.
Et il y a eu ce qu'on appelle le comité ou la commission Karan, qui est un comité israélien qui a enquêté sur ce crime qui a eu lieu à Sabra et Shatila. Et là, je vous avance les résultats de l'enquête israélienne. Cette enquête israélienne, elle a accusé d'une manière très directe, très frontale, Ariel Sharon, d'avoir facilité ce crime. Alors, d'après le rapport de ce comité, Israël n'a pas tué, elle n'a pas attaqué, mais Israël a facilité, entre guillemets, la mission de Eli Obeika. Et donc, la nuit, ils illuminaient le site avec des grenades artisanales, ils facilitaient la logistique aussi, il y avait des armes israéliennes, mais ça c'est normal parce que les milices chrétiennes étaient en partie armées par Israël, et ça a commencé avec le rapprochement entre Bachir Gemayel et les autorités israéliennes. C'était une décision prise par Ariel Sharon de faciliter donc ce crime, ce génocide. C'est pas uniquement un crime, c'est un génocide qui a eu lieu à Sabra et Shatila. Mais le principal accusé, il reste Eli Obeika. C'est lui avec ses miliciens, et je précise, c'était pas tous les miliciens des forces libanaises. Il y avait vraiment une faction, toute une faction de la milice des forces libanaises qui était mafieuse, qui était corrompue, qui était xénophobe, qui répondait pas à certaines valeurs, qui a perpétré ce génocide-là. Mais d'après ce qu'on sait, c'est qu'Israël a facilité, mais beaucoup, ce génocide-là. Ariel Sharon a été même accusé dans un tribunal israélien d'avoir facilité ce génocide-là, ce qui l'a poussé sous la pression à démissionner de son poste. Après, il a été nommé ministre dans un cabinet, mais sans portefeuille, etc., etc. Ensuite, il a été élu. Donc, voilà, il n'a pas été vraiment puni, mais il a démissionné sous la pression de ce comité. C'est ça un peu les coulisses de ce génocide-là. Mais le principal accusé, pour moi, il reste donc Eli Obeika, qui a pris une décision de son propre chef d'effectuer des représailles complètement absurdes. Sachant que celui qui a assassiné Bachir Gemayel, c'est Habib Chartouni, qui n'appartient même pas à l'OLP, qui n'est pas palestinien et qui était un grand défenseur du Parti nationaliste syrien. Il était engagé dans le Parti nationaliste syrien. Et donc ce crime-là a été fomenté par les occupants syriens en 82. Et c'est un militant de ce parti-là qui a fait ce crime et qui jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas arrêté, il n'est pas jugé. Bachir Gemayel, quand il a été élu, il a tendu la main à tous les Libanais. Il a été élu au Parlement libanais, qui est déjà divisé entre musulmans et chrétiens. C'est la parité là-bas. Donc il a été aussi bien élu par des chrétiens que par des musulmans, dont le père de Lokman Slim, qui a été assassiné l'année dernière. On dit que c'est le Hezbollah qui l'a assassiné. Enfin, il y a pas d'enquête, mais le père de Lokman Slim, qui est une figure plutôt de gauche, a voté pour Bachir Gemayel. Et donc le problème, c'est pas Bachir Gemayel. Je pense qu'Eli Obeika, il voulait faire son chef milicien. Il voulait dire qu'après Bachir Gemayel, c'est moi qui vais gouverner. Le message, c'était après Bachir Gemayel, c'est moi le chef. Et le ton a été donné avec le génocide de Sabra et Shatila qui a fait plus de 800 victimes. Après, on n'a toujours pas le chiffre exact parce que il y a ceux qui disent 380, d'autres qui disent 800. C'est la BBC en 82 qui a avancé le chiffre de 800. Mais ça reste un génocide abominable où il y a eu des viols, où des enfants ont été torturés, où on a tué des vieux. On est monté sur des corps, sur des cadavres, sur des corps inertes avec des chars. Il y a des chars qui ont roulé sur des cadavres de personnes innocentes. Et ça reste vraiment une énorme page noire et honteuse de l'histoire de la guerre libanaise.
Maïa Kadra, journaliste et enseignante, elle répondait à Loïc Barrière. Les Nations Unies appellent les autorités talibanes à prendre des mesures urgentes pour rouvrir les écoles secondaires aux filles en Afghanistan. L'ONU qualifie leur fermeture depuis un an de honteuse et sans équivalent dans le monde. La réouverture des portes des collèges et lycées le 23 mars dernier n'avait duré que quelques heures. Les talibans avaient immédiatement fait marche arrière et annoncé de nouveau leur fermeture. Cette découverte dans la bande de Gaza, des mosaïques datant du 5 au 7e siècle ont été dévoilées dans un verger du centre de l'enclave palestinienne. Elles ont été découvertes par un agriculteur palestinien qui labourait sa terre. L'invité de Pluriel ce week-end était Samia Badat Karam, conseillère de Paris, membre du groupe Changer Paris, présidé par Rachida Dati, élue à la mairie du 16e arrondissement. Elle a notamment réagi aux décisions prise par Anne Hidalgo en matière de sobriété énergétique, notamment la fin de l'éclairage de certains bâtiments publics la nuit. Samia Badat Karam.
Écoutez, franchement, c'est de la cosmétique et d'ailleurs, ça fait malheureusement, ça fait rire beaucoup de monde. La première ministre Elisabeth Borne elle-même, d'ailleurs, voilà, avec subtilité, certes, mais a raillé ces mesures parce que il ne s'agit pas de faire de la cosmétique. Il s'agit de prendre des mesures fortes et impactantes. Or, avec les mesures qu'elle annonce, il y aura déjà des problèmes de sécurité. Hein. On sait déjà qu'il y a des rues à Paris qui ne sont même pas éclairées. Moi, je pense déjà aux questions de sécurité et puis à l'attractivité. Les commerçants seront pénalisés. Donc, très concrètement, initialement, les services de la ville de Paris devaient diminuer leur consommation d'énergie de 30% en 2020. Résultat, la baisse, en fait, elle était que de 3%. Donc, c'est vraiment un échec. C'est-à-dire qu'elle fait des mesures d'annonce, elle fait des mesures cosmétiques, mais elle n'applique même pas le programme qu'elle s'était fixé. Et d'ailleurs, à l'échelle de Paris, la consommation d'énergie aurait dû diminuer de 25% dans le plan climat 2014-2020, et elle n'a diminué que de 5%. Celle du parc municipal et de l'éclairage n'a diminué que de 3,5% contre 30% prévu initialement. C'est encore un échec d'Anne Hidalgo. Donc les histoires de Tour Eiffel, franchement, malheureusement, c'est presque risible.
Vous avez le sentiment que éteindre des bâtiments emblématiques peut nuire aussi au tourisme?
Exactement, ça peut nuire donc à l'attractivité de notre ville. Déjà que la situation financière de la ville de Paris n'est pas reluisante depuis l'arrivée de Madame Hidalgo. Si en plus on est privé des ressources touristiques, ça sera la banqueroute totale. Donc effectivement, déjà ça c'est une mesure qui pour moi vraiment est purement symbolique. C'est pas là le vrai sujet. Et en plus ça poserait, hein, la question de l'éclairage en Paris peut causer des questions de sécurité et pénaliserait nos commerçants et l'attractivité, donc la venue des touristes.
Est-ce que vous redoutez qu'on annule les illuminations de Paris lors de la période de Noël?
Je pense que si on se fie à la philosophie de Madame Hidalgo, ça pourrait effectivement être encore une mesure cosmétique qu'elle pourrait annoncer au lieu d'appliquer les vraies solutions et en tout cas de prendre le problème à bras le corps, effectivement.
Il y a une mesure peut-être avec laquelle vous serez peut-être d'accord, c'est la baisse des températures à 19 degrés dans les établissements publics de la ville. Paris montre l'exemple aux Français qui sont invités aussi à faire des efforts.
Effectivement, c'est une mesure qui va dans le bon sens. Maintenant, attention à ce que nos enfants, je pense notamment dans les crèches et les écoles, ne soient pas non plus pénalisés. Je ne sais pas vers quel type d'hiver on part, mais il faut. Enfin, je pense aussi aux enfants, il faut faire attention. Moi, je suis élue chargée de la caisse des écoles, donc je connais bien le sujet, et notamment tout ce qui est petite enfance. Attention encore à ne pas faire des effets d'annonce qui ensuite pénaliserait nos petits administrés.
Samia Badat Karam, conseillère de Paris, membre du groupe Changer Paris, présidé par Rachida Dati, élue à la mairie du 16e arrondissement. Elle était l'invitée de Pluriel, une émission que vous pouvez écouter sur radioorient.com, émission présentée par Loïc Barrière. Les funérailles demain de la reine Elisabeth II, un événement d'une ampleur inédite en Grande-Bretagne. Des millions de visiteurs sont attendus à Londres, ainsi que les dirigeants des grandes puissances de la planète. La cérémonie aura lieu à l'abbaye de Westminster en présence de plus de 2000 invités. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient ce dimanche à 19h est Pierre Henry pour son roman « Les cendres de la mer » aux éditions Un point c'est tout. Le président de France Fraternité raconte l'histoire d'une femme qui, dans les années 50, accouche d'un enfant sans être mariée, un enfant qu'elle abandonnera plus tard dans un village de Haute-Marne, Pierre Henry.
Cette relation douloureuse avec la mère, elle va se développer tout au long du livre, qui est en réalité un dialogue extrêmement ramassé en 48 heures devant le lit d'agonie et de mort devant lequel Dominique se rend. Et il va avoir un dialogue, mais un dialogue fictif avec la mère. Et c'est un dialogue qui est constamment balancé, qui est à la fois dans pourquoi ça s'est passé comme cela, pourquoi la relation entre les deux êtres a été si compliquée. C'est un dialogue à la fois accusateur et puis c'est un dialogue qui prend en compte aussi la situation de la mère qui se retrouve fille, mère, comme on disait à l'époque, c'était le pauvre total à la fin des années 50. Quand je dis le pauvre, c'était à la fois pour les femmes qui se retrouvaient dans cette situation avec la pression familiale.
Avoir un enfant sans être marié.
Voilà, avoir un enfant sans être marié, c'était le pauvre la collectivité. De la famille, bien sûr, mais de la collectivité, et c'était l'assurance de se retrouver seul. Ça, c'est le scénario, alors, du 19e, bien sûr, mais ça va jusque dans les années 60, et j'ai envie de dire que ça va jusqu'à la révolution de 67, 68, etc. Ça, c'est la situation en France. Et puis, évidemment, il y a la mère, puis il y a l'enfant, et l'enfant est forcément stigmatisé comme étant illégitime.
Avec l'insulte suprême qui était, on traitait ses enfants de bâtards.
De bâtards, voilà. Alors, ce qui n'a pas le sens que celui qui est communément employé dans les insultes entre différentes bandes de jeunes aujourd'hui. Non, c'est véritablement la marque de l'infamie. Et cette marque de l'infamie, elle contraint finalement l'un des personnages, Dominique, à un exil intérieur. Il a été déposé dans un petit village, abandonné par sa mère, et voilà, ce village-là n'accepte pas le fruit de l'infamie. Mais vous savez, cette situation que je décris dans le livre, c'est aussi une situation que l'on retrouve dans un certain nombre de pays qui nous sont relativement proches. Je pense notamment à une situation qui prévaut dans un certain nombre de pays de la Méditerranée, et où le sort qui est fait aux femmes qui se retrouvent avec un enfant sans père est absolument terrible. Et ces femmes sont terrorisées. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a un certain nombre d'abandons, voire d'infanticides, qui se déroulent aujourd'hui dans ces différents pays.
Le président de France Fraternité, Pierre Henry, il est l'auteur du roman « Les cendres de la mer » aux éditions Un Point C'est Tout. Il est l'invité de la bibliothèque de Radio Orient ce dimanche à 19h. Émission présentée par Loïc Barrière. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient. Un très grand merci pour votre fidélité et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.